Et nous continuons notre exploration de la biodiversité marine en direct du Musée océanographique de Monaco avec Patrick Piguet, son conservateur et directeur du patrimoine. Bonjour.
Bonsoir.
Donc le musée accueille en ce moment même plusieurs expositions, celle de Mark Quinn, on l'a dit, avec Monsieur Calcagnou en tout début d'émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition-là?
C'est une exposition qui a été montée donc avec l'artiste britannique Mark Quinn. Son titre, The Littoral Zone, montre bien la position de cette exposition par rapport entre la mer, les océans et la terre. L'artiste a voulu, dans le musée, faire une présentation où le bâtiment lui-même est d'une zone littorale. C'est-à-dire, pour lui, le musée est au pied donc, de la mer Méditerranée. Donc nous avons au pied du musée physiquement la mer Méditerranée. Vous allez remonter aux aquariums avec donc, la vie qui est dans les océans. Sur le parvis, la vie qui commence à sortir des océans avec Planète, l'œuvre qui est donc sur notre parvis. Dans la salle du salon d'honneur qui est juste à côté de nous, l'œuvre appelée Évolution, donc, qui part donc, de la matière première jusqu'à une évolution avec des différents stades d'embryon jusqu'à l'arrivée du bébé. Et nous allons monter dans le bâtiment avec au fur et à mesure donc, l'émergence de la vie. Au premier étage, l'apparition donc, de l'homme. Ensuite, le dialogue de l'homme, la vie et la mort, qui est plutôt symbolisé dans la salle de la baleine, salle où nous avons notre collection ostéologique donc de squelettes de mammifères marins, pour arriver enfin et finalement sur la terrasse, où c'est plus en méditation. Donc là, on est plus au niveau de l'esprit avec le Zen Garden.
Et il y a également une deuxième exposition qui a lieu en même temps, la Méditerranée, consacrée à ses beautés, ses enjeux. On parlera des méduses peut-être avec Pierre-Gilles juste après, mais quelques mots pour nous la présenter.
Alors l'exposition Méditerranée donc, est ouverte au public depuis plus d'un an et demi. Elle fait partie de notre catégorie d'expositions environnement, qui sont donc des expositions que nous montons, nous, en interne directement, qui durent à peu près deux ans. Tout ça pour vous indiquer que la prochaine, qui sera en 2013, printemps 2013, aura pour thème les requins.
Donc Pierre a choisi. Voilà, qui sera content. Il viendra peut-être inaugurer aussi.
Mais je pense qu'on va le faire participer. Donc dans cette exposition donc, qui va bientôt s'arrêter, on va dire en fin d'année, donc j'invite tous les gens à venir la visiter.
Ça a été prolongé jusqu'en novembre, hein, c'est ça?
Oui, elle va être prolongée jusqu'à la fin d'année, jusqu'en fin d'année, pour avoir le temps donc, de préparer cette nouvelle exposition sur les requins. Donc dans l'exposition Méditerranée, elle se présente en plusieurs thèmes. Les thèmes abordés sont la protection du thon rouge, les espèces envahissantes, la prolifération des méduses et l'acidification. Ça, ce sont quatre thèmes que nous avons choisis comme qui nous paraissaient les plus importants pour illustrer.
Nous aussi, on a choisi de les aborder, donc ils nous ont paru importants.
Donc on est complètement en phase. Tout autour donc, de ces quatre thèmes qui sont au centre de la salle d'exposition temporaire se trouve une espèce de farandole de la biodiversité où on peut effectivement admirer un phoque moine naturalisé qui nous a été prêté par le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille. Et donc si les gens veulent mettre un visage, entre guillemets, sur cet animal, ils sont les bienvenus parce que c'est un beau spécimen qui est assez ancien mais qui nous a été prêté par le musée.
Moi, je voudrais comprendre comment l'Institut océanographique tente de sensibiliser le public sur le problème des espèces envahissantes. Comment vous vous y prenez concrètement?
L'exposition Méditerranée, typiquement, est faite un peu pour ça. C'est-à-dire que le module que nous avons créé dans cette exposition montre les espèces envahissantes. Nous avons eu l'opportunité de mettre et de récupérer des poissons de flûte qui étaient au large de Monaco juste avant l'inauguration de cette exposition Méditerranée et qui avaient été observés pour la première fois, mais ça Pierre-Gilles en parlera mieux que moi. Ces poissons de flûte donc, qui étaient observés en Méditerranée orientale seulement commencent à venir, dû au réchauffement climatique, vers les parties plus à l'ouest.
D'accord, donc vous donnez comme ça beaucoup d'informations sur ces espèces envahissantes, quelles sont-elles?
Tout à fait.
Et des conseils peut-être aussi?
Disons que les conseils, c'est des conseils de protection de l'environnement pour éviter le réchauffement climatique. En fait, il n'y a pas plus de conseils que cela à donner, c'est-à-dire vraiment des gestes quotidiens.
Et vous avez choisi de nous parler des tortues, et tout particulièrement des tortues terrestres, avec notamment la cistude, qui elle est menacée par une autre espèce envahissante.
Alors, j'ai choisi en fait de vous parler des tortues.
Sens un gros bug.
Non, il y a un bug, mais c'est pas grave. C'est
qu'en fait, j'ai dit une grosse bêtise.
Une petite bêtise.
Ah, petite bêtise. Vous êtes gentil.
En fait, il y a trois types de tortues, les tortues marines que nous connaissons bien.
Ah non, là, elle n'est pas terrestre, la cistude. Voilà pourquoi tout le monde rigolait. C'est ok, une... je comprends.
Donc il y a les tortues marines, il y a les tortues aquatiques et les tortues terrestres. Les tortues aquatiques étant les tortues d'eau douce. Et j'ai choisi donc en fait la tortue en clin d'œil par rapport à l'espace que nous avons récemment inauguré en terrasse, où nous présentons des tortues sillonnées, des tortues terrestres, pour sensibiliser un petit peu le public à la fragilité de ces animaux, notamment la tortue Hermann. Donc dans les tortues terrestres, c'est la tortue Hermann qui a dans son habitat, donc dans les Maures et dans la région méditerranéenne, qui est à protéger. Je voulais parler aussi de la tortue aquatique, la cistude d'Europe, qui en fait, elle, est vraiment en danger, puisqu'il y a eu des lâchers souvent sauvages de la fameuse tortue de Floride.
Que les gens ont tendance à prendre dans leur aquarium, elle prend beaucoup de place et puis finalement on la rejette.
Et qui se retrouve à coloniser complètement certains lacs et à détruire toute la faune des lacs en n'étant plus unique, monospécifique, avoir que de la tortue de Floride dans certains lacs. Donc c'est vraiment, parmi les gestes vraiment à conseiller, c'est vraiment de si on veut se débarrasser de tortues de Floride, il faut les ramener dans des animaleries, il ne faut pas les relâcher dans la nature.
Mais les animaleries, est-ce qu'elles les récupèrent véritablement ?
Alors ça c'est une très bonne question, je ne sais absolument pas si les animaleries le reprennent, mais il faut les remettre au moins, par exemple au Parc Phoenix, je sais que le Parc Phoenix les récupère, donc elles sont sauvegardées comme ceci.
On peut peut-être conseiller aux auditeurs de tout simplement pas s'en procurer.
C'est le mieux. Et donc je voulais parler, les tortues terrestres c'est pareil, on est soumis à des ventes, par exemple quand les gens vont en Afrique du Nord, etc., ramènent par exemple des tortues grecques qui sont interdites donc, par la CITES, etc. Et on se retrouve avec des gestes assez simple pour protéger cette biodiversité, donc de ne pas acheter des tortues, bien sûr, pour les ramener chez soi, de ne pas relâcher des tortues dans les lacs, etc. Et en Méditerranée, bon, essayer de ne pas saccager les sites de ponte des tortues qui peuvent rester.
Et on reste une minute de plus sur le sujet des tortues, puisque le musée vient d'accueillir, il y a très peu de temps, un nouvel espace de plus de 600 mètres carrés sur le toit panoramique. C'est l'île aux tortues, un lieu dédié aux enfants, avec un espace de jeu notamment. Et puis des tortues sillonnées, venant du Mali, dites aussi tortue sulcata, c'est leur nom officiel.
Tout à fait.
Donc ce sont les troisièmes plus grosses tortues terrestres du monde. Les mâles adultes peuvent dépasser, j'ai lu, plus de 100 kilos.
Tout à fait.
Alors quel est l'intérêt écologique de cette nouvelle acquisition de la part du musée ?
L'intérêt était vraiment de présenter, de faire un espace plus ludique. On avait besoin d'un espace ludique au musée. On a un aquarium, si vous voulez, qui est très merveilleux, etc. Donc les gens, le public est émerveillé. On a une partie musée qui est un petit peu plus sérieuse. Mais on n'avait pas d'endroit où on pouvait avoir un peu détendre les enfants, etc. Donc on a préparé donc, cette terrasse avec une partie, donc l'île aux tortues, avec un espace lounge qui est une prolongation un petit peu du restaurant, qui simule un petit peu le continent. Un espace jeu avec une baleine en bois qui a été construite spécialement pour les enfants, un petit peu avec un clin d'œil de notre baleine qui est en collection dans la salle de la baleine au premier étage. Et ensuite une petite île aux tortues où il y a effectivement des tortues sillonnées pour que les enfants puissent, et les adultes, voir un petit peu et approcher des animaux de près sur cette terrasse.
Il y a quoi, une dizaine de tortues actuellement ?
Il y en a sept.
Il y en a sept. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ces tortues, naturellement, creusent des terriers qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres de long pour se prémunir de la chaleur l'été et du froid l'hiver. Alors là, j'ai vu les installations, je ne vois pas comment elles peuvent se creuser des petits terriers.
Alors on leur a creusé
des... Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez fait déjà pour elles ?
Non, elles ont des abris qui sont prévus. Ils ont une petite cabane éventuellement où elles peuvent se réfugier. Donc elles seront très bien traitées au niveau du climat. Elles seront, à mon avis, dans un climat moins rude que celui où elles étaient au départ.
Est-ce qu'il est prévu qu'elles se reproduisent à un moment donné ?
Ah ben, nous souhaitons ça.
D'accord. Bon, on suivra l'affaire, alors. Donc, vous avez choisi de nous parler encore d'une autre espèce, puis c'est la dernière. C'est le coquillage casque, dont notamment Mark Quinn se fait un petit peu l'étendard avec plusieurs œuvres exposées ici.
Oui, alors on a choisi le Cassie madagascarensis, qui est en fait un casque, ce qu'on appelle un coquillage casque. Il n'est pas du tout de Madagascar comme son nom l'indique, mais il est des Caraïbes. Et il y a un clin d'œil avec ça, si vous voulez, c'est parce que donc Mark Quinn a choisi ce coquillage particulièrement pour montrer un petit peu la difficulté de taxonomie par rapport à un nom qui en fait ne décrit pas du tout le lieu d'origine. Donc il y a un clin d'œil à ce niveau-là. Le deuxième clin d'œil est que nous avons aussi ces casques en collection et que nous avons mis donc, en parallèle et en concordance, en résonance avec ces œuvres, nos casques en collection, en exposition. Et le dernier clin d'œil, c'est qu'en fait, tout le monde connaît en fait, ces casques puisque ce sont ceux qui servent à faire les camés.
Et vous avez également joué le jeu du choix musical avec...
J'ai choisi donc Aquarium de Camille Saint-Saëns puisque c'était une façon de donner la parole aux animaux.